Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Nous continuons notre série très très importante et notre thème aujourd'hui c'est Dieu le Père a fait son Fils héritier de tout l'univers. Je répète, Dieu le Père a fait son Fils héritier de tout l'univers. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 1, verset 1 à 14, qu'après avoir autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, par les prophètes, Dieu nous a parlé dans ces derniers temps en son Fils, c'est-à-dire en celui qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a fait le monde. Oui, celui qui étant le rayonnement de sa gloire, qui étant l'empreinte même de sa personne, Jésus-Christ, lui, il soutient toutes choses par sa parole puissante et qui, après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Aussi est-il devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus important que le leur. Oui, auquel des anges, en effet, Dieu le Père a-t-il jamais dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai ton Père. » Et il sera mon Fils. Et quand il introduit dans le monde son Fils premier-né, il dit encore que tous les anges de Dieu t'adorent. C'est merveilleux cela. Et c'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus à ce que nous avons entendu de peur que nous ne soyons entraînés à notre perte. En effet, si la parole annoncée par des anges a eu son accomplissement, si toute transgression, toute désobéissance a reçu sa juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Le salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur, il nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et toutes sortes de miracles, et par les dons du Saint-Esprit qu'il a distribués de, on peut dire, par sa volonté. Notez Hébreux chapitre 1, verset 1 à 14. Je voudrais juste dire que si vous avez Internet, vous pouvez écouter tout ce qui concerne les anges, toute une série. Il y a des véritables témoignages, des témoignages authentiques au sujet des anges. Et moi, personnellement, j'en sais aussi quelque chose parce que je l'ai expérimenté plusieurs fois. Mais ça sera un autre sujet. Vous pouvez aussi écouter toute la série concernant les prières, ainsi que toute la série concernant les prophéties. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc, il est dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, nous dit l'apôtre Paul, eh bien je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai oublié de vous dire que dans le site internet, c'est www.bibleexplique.ch. Mais poursuivons notre étude très importante. Donc, Le premier aspect, c'est la révélation de Jésus-Christ dans le cœur. Le second, c'est la vie de Jésus-Christ en nous, en toi. Il est donc important de reconnaître non pas simplement le fait que Christ vit en nous, non seulement que Christ est en nous, mais que ce fait a une signification beaucoup, beaucoup plus profonde. C'est que Jésus-Christ est la vie du croyant. C'est notre vie, Jésus-Christ en nous. Il est la vie même du croyant. Il est notre vie. Il a, lui, notre vie. Il a la place centrale et la place suprême. Et il est, je répète, notre vie. Dans la mesure, évidemment, où il en a en nous la place centrale et la place suprême, ni plus ni moins. Mais il nous faut comprendre comment Jésus-Christ en nous est la vie du croyant. Et toute cette lettre aux Galates nous aide beaucoup à le saisir. Nous ne voudrions être ici ni trop doctrinal, ni purement théologique, dans un sens technique, mais nous sentons que le peuple de Dieu doit être au clair sur les grandes doctrines de la grâce. Et c'est pourquoi nous aimerions considérer rapidement l'arrière-plan de la déclaration de l'apôtre que nous avons devant nous. Nous parlons très souvent de Jésus-Christ, notre vie. Et nous disons parfois certaines choses pour affirmer qu'il est notre vie même. Nous citons un autre fragment des Saintes Écritures qui n'a pas seulement le même sens que notre passage tout à l'heure, bien qu'il ait un lien, il y a un lien entre eux. Voyez-vous, lorsque Jésus-Christ, qui est notre vie, paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Colossiens chapitre 3, verset 4. Le principe est absolument le même dans ces deux passages. Jésus-Christ, notre vie. Mais dans l'épître aux Galates, il y a de plus un arrière-plan nécessaire. Ce n'est pas simplement que Jésus-Christ soit pour nous l'énergie vitale que nous appelons la vie. Il est certainement tout cela. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie en nous. Mais le contexte nous explique ici ce fait et lui donne une signification encore plus profonde si nous nous arrêtons attentivement sur le passage ou sur les passages qui précèdent et qui suivent cette déclaration de l'apôtre, eh bien nous verrons qu'elle représente un changement. Cette lettre, nous le savons, dénonce le légalisme dans lequel sont tombés les croyants de la Galatie et par lequel ils ont été saisis, surpris et même séduits. Remarquons ce début du chapitre 3e où il est dit aux Galates, dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé? Littéralement, on peut dire, qui vous a jeté un sort? Ils étaient donc tombés sous le charme d'un magicien, et c'était le charme d'un faux légalisme. Or, ce que l'apôtre Paul dit ici au verset 20 du chapitre 2 représente un changement. L'apôtre Paul avait autrefois été attaché à la loi. Sa position en tant que juif signifiait que sous la loi, l'homme doit vivre par la loi. La loi consistait en « tu dois » et « tu ne dois pas ». Et lorsque les « tu dois » étaient satisfaits et que les « tu ne dois pas » étaient observés et évités, eh bien la vie d'un homme, d'une femme, est devenue agréable à Dieu. Et cependant, une observation rigide de la loi associée à la purification et à une relation juste avec Dieu ne touchez pas toujours la conscience, ne touchez pas toujours le cœur. Ce n'était qu'une forme de convenance, c'était quelque chose de purement extérieur. Il y manquait toujours le sens intérieur d'un besoin. Or, Saul de Tarse avait vécu attaché à la loi. Il avait maintenu sa vie en observant très rigoureusement la loi avec tout ce qu'elle avait d'implacable et d'écrasant. On peut dire avec toutes ses menaces, ses jugements, ses condamnations et cette ombre de mort qu'elle tenait toujours en vue, telle avait donc été sa vie passée. Mais il n'y a jamais eu un seul homme comme l'apôtre Paul. Il le montre très clairement dans les premiers chapitres de son épître aux Romains. Oui, les premiers chapitres de son épître aux Romains, qui a pu satisfaire parfaitement Dieu. Là, nous le voyons. Et en tout point de vue, il a pu satisfaire Dieu. Et tous ont failli, est-il dit. Tous ont péché. Et la racine de la justice ne se trouve en aucun homme. Donc, Dieu ne pouvait donc être satisfait par une simple justice extérieure qui ne se trouvait pas dans l'homme lui-même. Donc, une sorte de justice théorique uniquement et non pas pratique. Et il n'y a eu jamais un homme qui a pu posséder la justice en lui-même. Et la race tout entière et embrasé dans la déclaration de l'apôtre Paul en ce qui le concerne lui-même, avec toute sa justice cérémonielle. Ce qui est bon, je le sais, n'habite malheureusement point en moi, c'est-à-dire n'habite pas dans ma chair. Romains chapitre 7, verset 18. Or Jésus-Christ, le seul homme qui ait pu le faire a accompli la loi dans toutes ses exigences et en vertu de la justice inhérente à sa nature. Il a satisfait Dieu, non pas de façon extérieure, cérémonielle et théorique, mais en ce qu'il était en lui-même, lui, le juste, qui n'a pas connu le péché en sa propre personne. Il a accompli la loi et il l'a mise de côté. Et il a dit, il n'y a plus de loi. Ce que Dieu le Père demandait maintenant, eh bien, c'est qu'elle fût accomplie pour le mettre de côté. Christ, Jésus, l'a donc accompli. Et Jésus-Christ l'a mis hors du chemin. Jésus-Christ a introduit une toute nouvelle dispensation, non plus celle de la loi, écoutez bien, mais maintenant celle de la grâce. Il a inauguré un nouveau régime dont le gouvernement n'est plus celui des « tu ne dois pas » et des « tu dois ». Ce n'est plus le gouvernement d'un légalisme systématique, mais c'est celui de la grâce. Et nous sommes désormais dans la nouvelle dispensation de la foi en Jésus-Christ. En lui sont embrassés et représentés tous ceux qui croient. Et Dieu est donc satisfait en lui de tous ceux qui croient. Jésus-Christ, il a donc été la justice que Dieu demandait de l'homme. Et Dieu est satisfait. Étant homme, il a été la justice pour l'homme. Et Dieu est pleinement satisfait et pleinement content. Ce n'est plus nous que Dieu regarde. Il regarde son fils en plus. Il regarde son fils en nous. Et maintenant, voyez-vous, c'est Jésus-Christ qui vit vraiment en nous. Et l'apôtre dit, en substance, il dit que je vis désormais, non pas en étant attaché à la loi, mais en demeurant uniquement attaché à Jésus-Christ. Et ce qui me tient attaché à Jésus-Christ, c'est uniquement la foi. C'est tout est par la foi. Nous ne devons pas oublier cela. Et cette vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi qui est dans le Fils de Dieu. Je m'attache donc à lui par la foi et je vis. Il n'y a plus de condamnation, donc il n'y a plus de mort, car la justice de Christ est en moi. Et là où est la justice, il n'y a point de condamnation, il n'y a point de péché en lui. Et puisque il n'y a point de péché en lui, la mort et le jugement n'ont point de pouvoir, ils n'ont point de place. Il est donc en moi, et il est celui qui vit dans la puissance d'une vie destructible, c'est-à-dire indestructible. Vous l'avez compris. Je répète, il est donc en moi, et il est, Jésus-Christ, celui qui vit dans la puissance d'une vie, je répète, indestructible, c'est-à-dire d'une vie qui ne peut jamais être atteinte. Et je vis donc en m'attachant à lui uniquement dans la foi. Comment cela? Eh bien, en répondant à l'accusateur, à l'ennemi, lorsque il soulève ses charges contre moi, pour me mettre sous un poids de condamnation, sous un poids de mort, Jésus-Christ est devenu ma justice. Et lorsque l'accusateur m'assaille de ses dards enflammés et qu'il me dit « Tu déplais au Dieu le Père », eh bien je peux lui répondre que Jésus-Christ est en moi et c'est lui qui satisfait le Père pour moi. Oui, le Père a tout son plaisir en lui, et il est en moi. Et par la foi, je reste donc attaché à lui, je m'unis à lui. Et au lieu de mourir, je vis, et au lieu de tomber sous la condamnation, je triomphe. Et c'est dans ce sens-là que Jésus-Christ en moi est la vie, il est la vie que je vis maintenant. Voyez-vous, nous vivons dans la victoire, non pas en lui, en luttant. Je répète, nous vivons dans la victoire, non pas en luttant comme des athlètes contre le péché, et non pas en répondant à l'accusateur sur la base de ce que nous sommes en nous-mêmes, car nous sommes en nous-mêmes des pauvres pécheurs uniquement sauvés par grâce, mais en nous pouvant lui présenter à Jésus-Christ toute notre vie et en nous saisissant ainsi de Jésus-Christ en nous uniquement par la foi. Nous devons tout saisir par la foi. Et Jésus-Christ est donc la satisfaction de Dieu, le Père, dans notre propre cœur. Que voulons-nous de plus? Or, la foi, elle se saisit continuellement de lui, oui, c'est-à-dire de lui, de celui qui est la satisfaction de Dieu, le Père. Il est dit, j'ai été crucifié avec Christ. Pourquoi donc m'éprouver? Et pourquoi m'accuser encore? Car celui qui est mort, il est libéré du péché, et c'est Jésus-Christ qui vit en moi maintenant. Voyez-vous, je vis est-il dit, Jésus-Christ est donc devenu ma vie, c'est dans ce sens-là qu'il devient ma vie. Et nous le voyons, c'est quelque chose de plus que de considérer Jésus-Christ seulement comme une énergie vitale pour certains. Une énergie vitale qui serait en nous et qui nous fait vivre. Mais Jésus-Christ est beaucoup plus que cela. Et si je vis encore dans la chair, est-il dit, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même à la croix pour mourir à la croix pour moi, pour me sauver et pour me racheter. Galates chapitre 2 verset 20. Ce passage exprime en quelques mots le grand message de la parole de Dieu et je sens qu'il faut que nous y arrêtons, que nous le voyons, car ce passage ramène le Seigneur Jésus dans notre vie. Il nous le ramène à sa place centrale et à sa suprématie. Et ce n'est que dans la mesure où il a cette place en nous que nous vivons. Nous vivons donc par Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre vie même dans ce sens-là. Oh oui, répondons donc à l'accusateur en lui présentant toujours Jésus-Christ. Nous devons faire cela. Jésus-Christ est donc central et suprême dans le croyant. Il est la vie du croyant. Et j'aimerais que nous apprécions davantage le Seigneur Jésus. Nous voudrions insister sur tout ce qu'il est dans la pensée de Dieu. C'est dans la mesure où nous aurons saisi cela de manière vivante, non pas simplement comme une doctrine, non, mais où nous l'aurons saisi dans notre cœur, que nous saurons ce que est le triomphe, que nous saurons la vie de victoire, et nous l'aurons. Et nous connaîtrons ainsi la plénitude. Et mes bien-aimés, je suis absolument convaincu que c'est dans la mesure où nous serons saisis par le Seigneur Jésus-Christ que nous serons des enfants de Dieu qui seront triomphants et qui seront victorieux. Oui, nous serons des vainqueurs. Alléluia. Rien ne peut donc se substituer à cela, à ce que est Jésus-Christ. Et nous arrêtons sur le troisième aspect de Jésus-Christ en nous, qui est l'espérance de la gloire. L'apôtre Paul dit, « Mes enfants, pour qui je souffre de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Galates chapitre 4, verset 19. « Oui, jusqu'à ce que Jésus-Christ soit formé en vous, en nous, en moi, en toi. » Premièrement, Jésus-Christ est révélé en nous. Deuxièmement, Jésus-Christ est vivant en nous. Troisièmement, Jésus-Christ est formé en nous. Il faut ici faire de nouveau une distinction. Il y a dans le chapitre 8 des Romains un passage semblable ou qui paraît être semblable à celui que nous venons de citer. Les termes sont presque pareils et cependant les deux passages ne sont pas de même nature. Bien qu'il désigne absolument la même chose. Voyez-vous, il est dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Romains, chapitre 8, verset 29. Ici, Ici, c'est le croyant qui est rendu conforme à l'image du Fils de Dieu. Et dans les Galates, c'est Jésus-Christ qui est formé en nous. Il y a donc entre ces deux passages des ressemblances, mais il y a des différences. Et c'est le passage des Galates qui nous retiendra beaucoup plus spécialement et nous tâcherons d'en découvrir la signification et la valeur particulière. Reprenons, s'il vous plaît, toute la lettre aux Galates et rappelons à notre pensée son objet et voyons quelle était la raison qui poussait l'apôtre à écrire. Il voulait corriger une erreur, le fait que les Galates étaient tombés dans cette erreur, qu'ils avaient été comme ensorcelés, rappelez-vous, et dépourvus de sens, était dû à leur immaturité spirituelle. Et ces croyants, ils n'avaient donc pas marché avec le Seigneur comme ils auraient dû le faire. Et à cause de leur maturité retardée, ils étaient devenus la proie des erreurs qui prévalaient autour d'eux. L'apôtre leur écrit maintenant pour les délivrer de ces erreurs. Il pose donc le doigt sur la racine de la question, juste sur le mal, et il leur dit en substance, tout ceci est arrivé parce que vous n'avez pas saisi Christ en vous de manière définitive. Suivons donc de très près la métaphore et nous comprendrons ce que dit l'apôtre au Galates chapitre 4 et au verset 19 de ce chapitre 4e. L'accent est donc mis sur le mot, rappelez-vous, formé. Jusqu'à ce que Jésus-Christ soit formé en vous. Ça, c'est un mot très fort. Ce qu'il veut dire, c'est ceci. Oui, Jésus-Christ est en vous, puisque vous êtes des croyants et des enfants de Dieu. Mais c'est un Christ mal défini. C'est un Christ qui n'est pas encore formé. C'est un Christ dont les traits ne se sont pas développés. Et il est là, mais il n'occupe pas une place clairement définie. Ses traits ne se sont pas développés, et c'est à cause de cela qu'il y a en vous toute cette faiblesse et cette disposition en vous de laisser vous entraîner. Voyez-vous, le Christ qui est en vous, il n'est pas encore arrivé totalement à sa pleine formation. Et nous le voyons, il y a ici quelque chose de différent d'avec ce que nous avons dans Romains chapitre 8, verset 29, qui parle de notre croissance progressive jusqu'à ce que nous soyons parvenu à l'image suprême de Christ, oui, le Fils de Dieu. Et c'est donc l'œuvre qui se fait en nous. Nous sommes donc rendus conformes à Jésus-Christ par la discipline, par la souffrance, par les difficultés, par l'épreuve, j'en sais quelque chose, et par les tribulations. Oui, c'est par les choses que le Seigneur nous permet de traverser, que nous devenons conformes à l'image de Jésus-Christ. C'est l'expérience que nous faisons chaque jour. Il est important de savoir ce que veut dire la nécessité d'une claire conception de Jésus-Christ. Pourquoi tant d'enfants de Dieu, sont-ils simplement harassés? Sont-ils poursuivis et tourmentés par l'accusateur? Qui les fait toujours tourner le regard en eux-mêmes, de s'analyser eux-mêmes dans une introspection malsaine, une conscience de soi qui les fait s'occuper sans cesse uniquement d'eux-mêmes, de leur nombril, tellement absorbés par eux-mêmes qu'ils, on peut dire, qu'ils en deviennent à être inutiles pour Dieu ainsi que pour les autres. Pourquoi tout cela? Parce qu'ils n'ont pas reconnu clairement tout ce que cela signifie, Christ en nous. Parce qu'ils n'ont pas compris définitivement que Jésus-Christ a répondu pour eux à Dieu en tout ce que Dieu demandait d'eux. Et parce qu'ils n'ont pas saisi cela par la foi, c'est donc là le chemin par lequel nous sommes délivrés de nous-mêmes. Oui, en Jésus-Christ, nous sommes délivrés de notre moi. Jésus-Christ ne devrait pas seulement être un hôte très vague et informe dans notre cœur. C'est quelque chose de difficile à expliquer, mais vous voyez probablement ce que je veux dire. Dès que nous saisissons clairement tout ce qu'implique la présence de Jésus-Christ dans notre cœur, eh bien nous sommes dans le repos. Nous avons une position forte et sûre de laquelle aucun légalisme ne peut plus du tout nous faire tomber. Alors l'apôtre leur rappelle que pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, de Jésus, demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin que personne vous instruise. Notez 1er épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 27. C'est-à-dire, vous savez intérieurement, par l'onction que vous avez reçue, si une chose est bonne, ou si elle est mauvaise. Voyez-vous, il y a une grande différence entre nos propres méfiances et nos préjugés, et ce témoignage en nous, qui est le témoignage de l'Esprit Saint. N'essayons pas de faire intervenir notre intelligence naturelle dans les choses spirituelles, et ne pensons pas devoir prendre une attitude méfiante et faire des réserves pour sauvegarder notre propre sécurité. N'ayons pas non plus de préjugés. Si nous marchons dans l'Esprit Saint, nous pouvons avoir l'esprit et le cœur ouverts. Nous pouvons marcher sans crainte et l'onction qui est en nous nous enseignera et nous donnera la connaissance dont nous avons besoin pas à pas. Nous ne pourrons peut-être pas le définir, mais nous dirons avec assurance, il y a dans mon cœur quelque chose d'intangible, quelque chose de certain, et maintenant je sais que j'appartiens au Seigneur. L'onction, il nous instruit. Et c'est Jésus-Christ qui est maintenant formé en nous. Et nous arrivons maintenant à la chose suivante qui est le quatrième aspect. C'est Éphésiens chapitre 3, verset 17. Que Jésus-Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que étant enraciné et étant fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints avec tous les fidèles, que Jésus-Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et ce passage ne dit pas que Jésus-Christ peut entrer dans votre cœur. Il ne dit pas que Jésus-Christ peut trouver peut-être une demeure dans votre cœur, mais il dit que Jésus-Christ habite maintenant dans votre cœur. Et le mot grec, dans le texte original, signifie « Jésus-Christ fait sa demeure » ou bien « il s'établit dans votre cœur ». Que Christ fasse donc sa demeure dans notre cœur. Ça, c'est quelque chose de plus qu'un simple logis. C'est quelque chose de plus que simplement entrer et se trouver là par hasard. Voyez-vous, chers amis, demandons au Seigneur que sa sainte parole devienne la vie en nous. Et ça, selon les propres besoins de chacun d'entre nous. Vous qui êtes des serviteurs du Seigneur, souvenez-vous que tout votre travail dans la pensée du Seigneur, il ne pourra jamais remplacer l'occasion qu'il désire pour vous dire dans votre cœur des choses de plus en plus profondes. Vos activités se feront sans vie si vous ne lui donnez pas le temps de vous parler et s'il ne reçoit pas de vous la réponse qu'il attend à ces révélations nouvelles. Et nous nous arrêtons maintenant à la seconde lettre aux Thessaloniciens au chapitre 1, verset 10. Quand il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et pour être admiré dans tous ceux qui auront cru, oui, pour être admiré dans tous ceux qui auront cru, ça c'est la consommation de Jésus-Christ en nous. Et ne pensons-nous pas que l'apôtre fait ici une déclaration merveilleuse et qu'il affirme ici une chose extraordinaire. Oui, nous, nous attendons à le voir venir dans la gloire. Et nous espérons voir le Christ glorifié. Mais il agit maintenant pour que lorsqu'il paraîtra, que sa gloire soit manifestée dans les saints. Ce ne sera pas seulement le Christ objectif venant dans sa gloire, mais ce sera le Christ subjectif, Christ en nous, Christ en toi, manifesté en gloire. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifié avec lui, selon Romains chapitre 8, verset 17. Il a prié et il a demandé que nous contemplions sa gloire. Et il sera donc glorifié dans les saints, dans les fidèles, et il sera admiré en ceux qui croient. Ce n'était aux yeux du monde qu'une simple Il était un simple homme, rappelez-vous, qui avait gravi un jour la pente d'une montagne. On pouvait avoir en lui certaines choses frappantes, oui, impressionnantes même, mais pour la plupart des hommes, il était absolument comme tous les autres. Alors là, il a atteint le sommet de cette montagne. Et voilà que soudain, cet homme devient brillant et resplendissant de gloire céleste. Et son vêtement est devenu d'une blancheur éblouissante, transfiguré. il a passé subitement de l'état d'un homme ordinaire, selon l'opinion du monde, à la gloire totale de Dieu le Père. On peut dire, comme au temps de Moïse, Moïse est donc descendu avec la gloire de Dieu. Mes chers amis, nous verrons que Jésus-Christ révélé dans le croyant que cela signifie être un instrument capturé. Saul de Tarse, au jour où le Fils de Dieu a été révélé en lui, est devenu son prisonnier. Il fut donc un homme qui a été saisi et qui a été capturé à partir de ce jour-là, car il s'appelle lui-même, il s'appelle le prisonnier de Jésus-Christ. Vous et moi, mes chers amis, nous devons être capturés, nous aussi. Chers amis, Jésus-Christ vivant en nous, comme notre vie, cela signifie être un instrument crucifié. J'ai été crucifié, j'ai été capturé, oui, crucifié avec Christ. Il t'a formé, Jésus-Christ. Il s'est formé en nous. Cela signifie donc, on est devenu un instrument qui marche maintenant avec le Seigneur. Il a été formé en nous et nous marchons maintenant avec Jésus-Christ. Et c'est ainsi que chaque aspect de Jésus-Christ en nous représente une responsabilité et une demande particulière jusqu'à ce que nous arrivons à la consommation. Et nous verrons que le contexte de chacun des stages que nous avons indiqués nous montre clairement quelle en est la demande. Dans la lettre aux Thessaloniciens, où nous avons la consommation, l'apôtre Paul parle à ses croyants, il leur parle de leur souffrance. Il leur parle de leur souffrance supportée avec joie pour l'amour du Sauveur. Avec joie. Ils ne se sont pas laissés tomber. Ils ne sont pas laissés assombrir dans la dépression. Ils souffraient, en effet, bien sûr, pour servir le Dieu vivant et pour attendre son Fils revenant dans sa gloire. Ils avaient donc souffert, oui, mais ils souffraient avec joie. Or, voyez-vous, la consommation de la gloire, elle est liée à la fidélité dans l'épreuve. Et ainsi, encore dans la souffrance, c'est pas facile, non, mais le Seigneur nous donne la force, il nous le permet d'avoir la victoire finale, pas par nous, mais par lui. Nous pouvons le voir, chaque aspect de Jésus-Christ en nous, à sa propre demande, et il sera bon que chacun de nous, que nous, nous y arrêtons de beaucoup plus près. Mes chers amis, pour terminer, disons que le Seigneur trouve en nous ce qui répond à son dessein, ce qui rend possible la réalisation du secret de son cœur. Jésus-Christ en vous, Jésus-Christ à la place centrale, il a la place suprême. Il est l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Et chers amis, rappelez-vous que Dieu vous aime. Il vous aime d'un très grand amour. un amour unique, total. Et il est de mon devoir de vous aimer également de tout mon cœur. Et là où vous vous trouvez, tout près ou très éloigné, eh bien, je vous enlace tous. Je vous embrasse maintenant absolument tous. Et je vous dis, oui, soyez bénis en et par Jésus-Christ. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui encore, nous voulons invoquer ton saint nom, car nous venons de l'entendre, et c'est de tout notre cœur que nous le croyons. Il y a dans tes meurtrissures et ton œuvre de salut, il y a ton âme, mais aussi il y a la délivrance possible pour nos corps. Et je veux te prier ce matin, ô Seigneur, toi qui connais les cœurs, et tu sais qu'en ce moment même, il y a peut-être une âme repentante, il y a un malade, une malade affligée à l'écoute, et je te demande de le visiter, de le bénir, de la pardonner, de lui pardonner, de le guérir, de la guérir, au nom de ton saint nom, Jésus-Christ. Amen. Et chers amis, à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.